En 1978, Jacques Chancel, animateur de l'émission de radio Radioscopie, est en train de conclure son interview avec Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste à l'époque, et lui pose une question qui est restée célèbre. Et Dieu dans tout ça? Et ensuite, il y a le générique de fin d'émission qui s'enchaîne. On n'a pas le temps d'entendre toute la réponse de Georges Marchais à cette question. Mais Jacques Chancel, qui a posé cette question, est mort hier, à l'âge de 86 ans. Vous avez peut-être vu ça aux informations. Et dans un rare moment de lucidité à la télévision, le présentateur du journal de 20h sur TF1, hier soir, Julien Arnault, en annonçant le décès de Jacques Chancel, a ajouté cette remarque, je le cite. Maintenant, Jacques Chancel a sûrement obtenu la réponse à sa question. Et Dieu dans tout ça. Alors j'ai trouvé cette remarque poignante, d'abord parce qu'elle montre que la question de Jacques Chancel, d'abord si elle est restée célèbre, c'est parce qu'elle renvoie beaucoup de gens aux questions qui se posent eux-mêmes par rapport à leur propre existence. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Et c'est peut-être une question que vous vous posez vous aussi de temps à autre. Mais la remarque de Julien Arnault hier soir au journal de TF1 est poignante aussi parce qu'elle révèle l'intuition que les gens ont qu'il y a une réponse à leurs questions existentielles. Non seulement les gens savent-ils qu'au fond il y a des questions, mais ils savent aussi au fond qu'il y a des réponses à ces questions. Ils ne savent pas ce qu'elles sont, ces réponses, ils ne savent pas forcément où elles se trouvent, mais ils savent qu'elles existent. Et comme le dit Julien Arnault sur TF1 hier soir, au moins une fois mort, on sera fixé. Or, le message plurimillénaire de la Bible, des Écritures saintes, c'est un message hors du commun, un message vraiment unique et incomparable. Ce message, c'est le suivant, c'est que l'homme, s'il se trouve dans cette impasse existentielle, c'est-à-dire si l'homme ne sait plus d'où il vient, s'il ne sait pas non plus où il va, s'il ne sait pas non plus pourquoi il y va, si l'homme se trouve dans cette impasse, en fait, il n'est pas obligé d'y rester. Pourquoi? Parce que Dieu, dans tout ça, a voulu se faire connaître. Ou plutôt, il a voulu se faire reconnaître ou se refaire connaître auprès des hommes qu'il a créés à l'origine. Et donc, d'après la Bible, Dieu a entrepris de révéler son être et sa volonté de diverses manières, c'est le message de la Bible, et d'ailleurs tout l'Ancien Testament, qui remonte jusqu'au XIVe siècle avant Jésus-Christ, écrit sur une période d'environ 1000 ans, tout l'Ancien Testament a pour but de faire comprendre aux hommes que Dieu veut les délivrer de cette impasse dans laquelle ils se trouvent. Dieu veut rendre aux hommes leur dignité, il veut leur pardonner leurs fautes, il veut les délivrer du mal et de la mort, il veut leur donner l'espérance certaine de la vie éternelle avec lui, avec Dieu. Et pendant des siècles et des siècles, les prophètes de l'Ancien Testament, dont on a lu tout à l'heure quelques extraits, annoncent la venue d'une personne en particulier, un sauveur ou un messie, comme ils l'appellent, qui doit accomplir une œuvre unique pour que ce projet de Dieu se réalise, ce projet de Dieu pour l'humanité, c'est pas rien. Et c'est pourquoi, lorsque l'évangile selon Matthieu, dans le texte que Camori vient juste de lire, lorsque l'évangile selon Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, donc le premier livre écrit après la naissance de Jésus, lorsque ce récit, ce texte raconte la naissance de Jésus, l'auteur veut nous faire comprendre immédiatement que Jésus est venu comme un cadeau pour le monde d'une valeur exceptionnelle. Et la façon dont il nous fait comprendre cela, l'auteur, c'est en racontant notamment l'effet que la naissance de Jésus a eu sur des gens venus de très loin. Vous avez suivi cette lecture. Il était question de mages venus d'Orient, c'est-à-dire de très loin, des étrangers qui viennent de très loin pour voir ce qui s'est passé. Ils ont appris qu'un roi apparemment était né, et ils veulent venir voir. La naissance de Jésus a produit un effet sur des gens venus de très loin, sur ces fameux mages venus d'Orient. Et ces gens-là, d'après le texte, vont faire un long voyage, ils s'informent du lieu où devait naître le Messie, et donc pour le savoir, ils vont consulter les responsables, les spécialistes religieux de l'époque, du judaïsme donc, ils vont les voir et ils leur demandent, mais dites-nous, où est-ce qu'il devait naître le Messie, d'après les Écritures saintes, d'après vos prophètes, où est-ce qu'il devait naître, s'il vous plaît? Et ils leur répondent, à Bethléem, dans une ville qui s'appelle Bethléem. Alors, ils y vont là-bas, ces mages, et ils y trouvent en effet Jésus, et ils vont lui offrir leurs hommages sous la forme de dons extrêmement précieux. On connaît tous cette histoire, n'est-ce pas? Mais ce qui est frappant, c'est que dans le récit biblique, dans le récit du Nouveau Testament, dans ce premier récit du Nouveau Testament qui concerne la naissance de Jésus le Messie, ce qui est frappant, c'est que les premières personnes à venir à la clinique, si j'ose dire, pour rendre visite à la jeune maman et son bébé, les premières personnes à venir, ce sont des étrangers venus de très loin. Et ce ne sont pas les gens les plus proches, ce ne sont pas les gens qui étaient là. L'auteur raconte cela pour nous montrer combien la naissance de Jésus est un événement heureux, et pas seulement pour les Juifs, qui sont les Juifs de l'Ancien Testament, qui attendaient la venue du Messie, mais un événement heureux même pour le monde entier, pour vous et pour moi. Et comment fait-on parfois dans la vie pour obtenir un indice de la valeur de quelque chose ? Ben parfois, on peut se douter qu'un objet particulier d'une grande valeur, parce que cet objet est très recherché ou très demandé. Quand un objet est très demandé, généralement il est cher, n'est-ce pas? Je me souviens d'une scène dans le film Intouchable, où un des héros, qui est un collectionneur de tableaux abstraits, cherche à vendre une peinture qu'a faite son ami qui n'avait jamais peint de sa vie. La réalité, c'est que ce tableau n'avait en fait objectivement aucune valeur. Vous vous rappelez de cette scène, peut-être? Vous vous souvenez de cette scène? Mais ce spécialiste de l'art abstrait fait croire à un acheteur potentiel qu'un tel autre spécialiste serait prêt à acheter ce tableau 20 000 euros. Vous vous rendez compte, 20 000 euros, très demandé ce tableau. Alors immédiatement, ça pousse l'interlocuteur à ce moment-là à faire une offre supérieure. Bah, puisqu'il est si demandé, il doit valoir cher, je vais faire une offre supérieure, parce qu'il faut absolument que je l'aie ce tableau, alors qu'en réalité, objectivement, il ne vaut rien. Autrement dit, si ce tableau qui ne paye pas de mine est tant recherché, c'est qu'il doit être d'une grande valeur, vous avez compris le raisonnement. Alors certes, dans cet exemple que je viens de vous citer de ce film, c'est une grosse arnaque, hein, on est d'accord, c'est une grosse arnaque. Mais toujours est-il que lorsque quelque chose est très demandé ici, dans notre monde, quand quelque chose est très recherché, c'est que ce quelque chose mérite au moins notre attention. Enfin, c'est quelque chose qui vraisemblablement est précieux. Et mérite notre attention. Et c'est ce qui se passe exactement dans l'histoire qu'Amaury a lue, avec ces rois mages qui viennent voir Jésus. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est que ce petit garçon qui vient de naître et qui a fait réagir les étoiles dans le ciel, d'une part, mais qui a fait réagir aussi et qui a fait venir des étrangers de très loin, ce petit garçon mérite aussi notre attention. C'est qu'il est très recherché, très demandé, très précieux. Ce Messie, ce roi des Juifs qui vient de naître, est d'une valeur exceptionnelle. Pas juste pour les Israélites de l'époque, qui attendent sa venue depuis de nombreux siècles, mais aussi pour le monde entier. Pour les mages venus d'Orient, mais aussi pour les Européens, et pour les Océaniens, et pour les Arabes, et les Esquimaux, et les Indiens d'Amérique, et les Nord-Coréens. Et vous pouvez rajouter à la liste tout ce que vous voulez. Jésus est venu comme un cadeau pour le monde d'une valeur exceptionnelle. Et le reste de l'histoire de Jésus, que nous rapporte la suite du récit de l'Évangile, qui est en quelque sorte la biographie de Jésus, le reste de l'histoire nous apprend pourquoi ce cadeau est d'une telle valeur. Et en lisant ce récit, on peut comprendre pourquoi ce cadeau est d'une telle valeur, pourquoi Jésus est d'une telle valeur. Et on apprend dans ce récit, notamment dans la suite, que Jésus, le Messie, est venu tout simplement accomplir une mission extraordinaire qui consistait à rétablir la relation des hommes avec Dieu. Et il a fait cela principalement par une chose. Si à Noël, on fête la naissance de Jésus, l'autre grande fête chrétienne, c'est quoi? C'est Pâques, où nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a rétabli la relation des hommes avec Dieu, principalement en supportant à la place des hommes le poids de leurs fautes. Quel amour, n'est-ce pas? Quelle grâce qu'il veuille se sacrifier ainsi. Jésus est venu pour prendre sur lui, en fait, ce qui faisait obstacle à la relation des hommes avec Dieu. Tous les hommes, sans exception, ont en eux, et vous le savez très bien, des désirs mauvais. Et principalement, on a en nous le désir de vivre de façon autonome, en établissant nous-mêmes les règles de notre vie, en déterminant nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fin de compte, d'après la Bible, c'est ça qui est la cause de l'impasse existentielle dans laquelle nous nous trouvons. La créature, séparée de son créateur, a perdu le sens de sa vie. Ce qui fait poser la question à Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça? Je pense bien qu'il y a des réponses quelque part, mais où sont-elles? Comment les connaître? Et Jésus est né dans un but précis, avec une mission précise à accomplir, Et il a accompli cette mission par sa mort et sa résurrection. Il est mort sur la croix pour détourner sur lui-même les conséquences des fautes de tous ceux qui lui font confiance. Il est venu pour mourir. Il est né pour mourir, si j'ose dire. Et pour être séparé de Dieu à la place de ceux qui lui font confiance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue. La Bible nous dit que le troisième jour, Jésus est ressuscité en vainqueur sur le mal et sur la mort, de sorte que maintenant, tous les gens qui lui font confiance, tous ceux qui placent leur confiance en lui, par la foi, entrent au bénéfice de ce qu'il a accompli. Et ce cadeau est vraiment destiné à tous ceux qui ont foi en lui. Il n'y a pas de discrimination. Tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui lui font confiance, entrent au bénéfice de ce que Jésus le Messie a accompli. Alors c'est pour ça qu'on peut dire, et qu'on peut répéter tous les 25 décembre, que le plus grand cadeau de Noël, le meilleur cadeau de Noël, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Tous les autres cadeaux qu'on va recevoir aujourd'hui ou demain pâlissent en comparaison avec Jésus. Comme le dit le Nouveau Testament dans un autre passage, je cite, « Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. » Il s'est donné lui-même, le plus grand cadeau qu'on pouvait recevoir. Si aujourd'hui vous êtes dans la situation de Jacques Chancel, à vous demander, mais est Dieu dans tout ça? Est Dieu dans ma vie? Est Dieu dans ces circonstances que je traverse? N'attendez pas de mourir pour obtenir les réponses. Vous pouvez dès aujourd'hui recevoir de la part de Dieu le plus grand cadeau que vous pourriez jamais recevoir, Jésus lui-même. Faites-lui confiance et vous serez réconciliés à jamais avec celui qui vous a créé. N'hésitez pas à lire et à étudier la Bible pour mieux connaître ce Dieu qui a voulu se faire connaître. N'hésitez pas d'ailleurs à en discuter avec vos amis de l'Église, avec vos amis chrétiens. Mais ce cadeau de la part de Dieu, Jésus lui-même, je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait de ce cadeau? Est-ce qu'on s'est lassé de ce cadeau? Vous savez, un petit peu comme on peut se lasser des fois des cadeaux qu'on reçoit à Noël, et puis quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, ils se retrouvent rangés dans un placard à prendre la poussière. Jésus qui vient de naître déplace les étoiles dans ce texte, il attire des mages venus d'un pays étranger, c'est incroyable! C'est pas rien comme cadeau. Et si par la grâce de Dieu vous l'avez reçu, c'est pas un cadeau qui mérite d'être rangé sur une étagère ou dans un placard, n'est-ce pas? Ce Jésus qui est venu il y a à peu près 2014 ans, on n'est pas sûr, à peu près en tout cas, ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité, aujourd'hui, vous savez quoi, il se révèle à des chanteurs satanistes de heavy metal, il délivre des toxicomanes de la drogue et de l'alcool, il se fait connaître à des musulmans dans des rêves, il convertit les athées les plus endurcis. Je peux vous dire que Jésus est venu vraiment comme un cadeau pour le monde, d'une valeur exceptionnelle. Et nous avons la chance de le connaître, et de pouvoir le connaître, si vous ne le connaissez pas encore. Ne perdons pas notre enthousiasme, ne perdons pas notre éblouissement en tant que chrétien devant ce cadeau exceptionnel, ne perdons pas notre premier amour. Joyeux Noël, Noël à tous, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour la venue de ton Fils Jésus dans le monde. Comme nous venons de le voir, lorsqu'il est né, des gens sont venus de loin pour lui rendre hommage. Seigneur, fais en sorte que nous soyons poussés par ce même enthousiasme à nous approcher de lui, de ton Fils, le Messie, à lui faire confiance, à lui rendre hommage jour après jour. Nous te prions aussi pour ces fêtes de Noël, ces réjouissances. Nous te prions de nous aider à avoir la joie authentique à Noël, celle qui consiste à se réjouir de la venue de Jésus, à se réjouir de son œuvre accomplie et à se réjouir de l'espérance solide qui en découle pour tous les croyants. Amen.